allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bien le bonjour tout le monde, soyez les bienvenus les amis, installez-vous à la table des bons vivants, nous sommes ensemble de 11h à 12h30, produits de saison, recettes, débats et bonnes adresses, notre panier est bien rempli encore aujourd'hui. Elle a toujours la bonne idée pour rendre notre cuisine plus saine et plus maligne. Anne-Laure Femme est avec nous, elle est attablée. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour à toutes et à tous.
Tout va bien ?
Tout va bien et je prépare ma pâte à tartiner.
Ah oui, vous verrez, et puis elle est bonne. Tous les goûts sont dans la nature, les vins aussi. Ce samedi, il voit jaune, rien à voir avec les gilets. Hein. Non, pas du tout. Le jaune, le bon jaune des vins du Jura. Olivier Poulx est là.
Oui, bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Et ce goût si particulier. Et vous verrez qu'il y a des accords merveilleux à réaliser avec ce vin.
Marion Sauveur nous rejoindra dans un instant pour son journal de la cuisine. Et puis Jean-Luc Petit-Renaud, l'ami du déjeuner, nous expliquera pourquoi il ne tient plus à dîner en compagnie de Madonna et de Lady Gaga. Nous sommes le samedi 2 février, c'est la Chandeleur. Nous vous emmenons en Bretagne, la patrie des crêpes et des galettes. Et puis, difficile à digérer, proscrit pour certains, le gluten n'a pas bonne presse. Et pourtant, c'est aussi une vraie richesse. On va en parler ce matin avec Victor Coutard, l'auteur du livre « I love gluten ». Et puis pour partager le plat du jour, nous recevrons l'humoriste Raphaël Mesrahi. Il sera accompagné de son plat de pâtes préféré, cuisiné par sa maman Lulu, dites donc.
Oh.
Allez, à table les amis. Alors vous qui êtes des fidèles, hein, vous le savez, avant de faire le marché, comme à notre habitude, c'est l'heure du goût de la semaine, notre petit tour de table hebdomadaire, une recette, une adresse, une rencontre qui vous a marqué cette semaine. On commence par vous, Anne-Laure.
Je vous brandis, chers auditeurs,
mais brandissez.
Un manga délicieux que je vous recommande vraiment, qui s'appelle La Cantine de Minuit. Vous avez le tome 1, tome 2, tome 3 qui sont sortis.
Ouais.
Le tome 3 était d'ailleurs en sélection officielle au Festival de BD d'Angoulême cette année.
Joli.
Et c'est génial parce que vous séjournez dans un restaurant en plein Tokyo qui ouvre en pleine nuit avec des clients très particuliers et des plats. Mais alors, si vous ne salivez pas en lisant ce manga, je ne sais pas ce que je peux vous conseiller.
Et c'est une immersion dans la cuisine japonaise alors.
Ah oui, des plats japonais traditionnels, populaires, qu'on ne connaît pas encore assez ici.
La Cantine de Minuit. Eh bien, merci Anne-Laure Femme. Olivier Poulx, votre goût de la semaine, votre âme,
mon ami. C'est une autre cantine et je vais trahir un petit secret. Hein. Après
oui.
tout, on est entre nous.
Ah
là.
Oui, je vous vois venir, oui.
Ouais, vous,
allez-y,
alors,
allez-y.
Quand on prépare cette émission à Europe 1, il nous arrive de casser une petite graine
oui,
ensemble.
Un petit frichti.
Et il se trouve que vous avez eu la très grande générosité de nous inviter la semaine dernière à la cantine, pas de minuit,
non.
mais d'Europe 1.
D'Europe 1.
Et ouais. alors là, alors que chaque semaine, avec les conseils des bons vivants, on vous explique la saisonnalité, la cuisson des légumes, le respect du produit, eh bien, c'est vrai que devant cette assiette de haricots verts un peu bouillis avec
des petits pois
et des champignons de Paris, ben c'était un peu mon goût de la semaine.
C'était raté. Mais c'est terrible, c'est que ça aurait pu être bon, parce que même si on a affaire avec des produits surgelés, on peut faire de belles choses. Mais là, ça avait été cuit très longtemps à l'avance.
Ou alors on est arrivé très tard.
Et rien n'avait le goût de ce qu'il aurait dû avoir, en fait. C'était terrible. Oui, on fera plus, ça, je vous promets.
Bon, ben je compte sur vous.
Non, je vous promets. Alors, mon goût de la semaine, c'est un goût universel, c'est le goût du poulet rôti. J'en ai encore fait un il y a quelques jours. Beau poulet fermier qui a bien gambadé, bien musclé. Vous l'assaisonnez comme il faut, un joli beurre tout autour. Départ four froid, 170 degrés. Allez, trois quarts d'heure sur une cuisse, trois quarts d'heure sur l'autre. Beaucoup de temps sur le dos aussi, avec la poitrine en bas et on le retourne et on l'arrose. Eh bien, ça reste quand même un grand classique, un grand tube de la cuisine, ça, le poulet rôti.
Nettement mieux que ce que vous m'avez fait manger
vendredi dernier. Je vous promets, non, c'est fini. On ne fera plus ça. Allez, il est temps de faire un tour au marché, direction le quartier de la Gare du Nord à Paris, au marché de Saint-Quentin. C'est un marché couvert, c'est bien, ouais. C'est pas du luxe avec la météo de ces derniers jours. Alors qu'est-ce qu'on mange pour se réchauffer? Écoutez votre réponse.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je prends environ 14 clémentines pour quelques jours parce que comme on en mange deux chacun, on est deux. Ça fait 4 par jour, ça va vite.
Alors là j'ai du raisin et un kaki, pomme, clémentine, ça c'est la base.
Je viens d'acheter des oranges, oignons, et dans la cocotte on met des pommes de terre, des légumes et du calmar, un ragoût de calmar, oui. Il faut le manger chaud.
Bonjour, alors je voudrais de la poitrine fumée s'il vous plaît. Vous mettez à peu près 5 cm. Pour le mettre dans la potée, il faut du lard, il faut de la saucisse fumée, ça va avec.
Je suis volailler, traiteur en même temps. Je viens de faire un colombo de joues de porc et poitrine fraîche, tout ça confit avec du curry, de la badiane, un peu de cannelle. Des pommes fruits, tous les jours je fais un plat cuisiné, ou deux, voire trois, avec tous les produits que j'ai en vitrine.
Poireaux, carottes, pommes de terre, oignons. C'est la soupe de ce soir.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir, messieurs, dames, et merci pour votre accueil. Un Colombo. Merci, monsieur le traiteur, de travailler effectivement avec les produits que vous vendez, de proposer un plat cuisiné.
Ça donne envie. Hein.
Ça, c'est super. Ça. Puis il y a des parfums tout de suite dans le marché avec
Bonne
ça.
Bonne idée, les épices. Et oui. En ce moment, c'est vrai qu'on tourne un petit peu en rond sur les produits, on le voit hein, depuis quelques semaines. Pour doper tout ça, allons épicer nos plats.
Et une potée ou une soupe, vous êtes quoi, leur femme, potée ou soupe ?
Les deux, mon commandant.
Ah,
non,
c'est
mais
bien.
La petite soupe, oui. La petite soupe en semaine, ça permet de faire une pause entre deux séances de potée, justement.
Oui, et puis le soir, quand on a trop mangé le midi, ça nettoie la tuyauterie aussi.
Voilà.
Donc c'est parfait. Donc n'hésitez pas, tous à la soupe. Il y a plein de légumes racines, il y a les courges, tout le monde est là. Donc on peut y aller. Alors ce samedi, vous le savez, on fête la chandeleur. On va sortir la crêpière, on va sortir le bilig. Vous savez, cet ustensile en fonte que les Bretons font chauffer en ce moment et toute l'année, même pour faire de jolies galettes et de jolies crêpes. Ne bougez pas, on vous emmène en Bretagne faire chauffer la crêpière et le bilig. A tout de suite sur Europe 1.
Vous avez le louis d'or ?
Oui, ah bah oui, on a, il faut la pièce d'or.
Hein. Ah bah on y va.
Les
alors.
Pièces jaunes, comme Bernadette Chirac.
Comme tous les samedis, vous êtes à la table des bons vivants avec Laurent Mariotte. Et ça tombe bien, on est le 2 février, alors on fait des crêpes, Laurent ?
Oui, absolument, Justine. C'est la chandeleur, une pièce jaune dans une main pour faire sauter les crêpes. Et la prospérité sera assurée pour 2019. Donc rien que pour ça, il faut faire des crêpes. Alors pour la chandeleur, justement, on vous emmène déguster la star des crêpes, la bretonne à la farine de sarrasin. Au passage, le sarrasin qui n'est pas une céréale, mais qui est une plante, Anne-Laure Femme. Ça vous parle, le sarrasin ?
Tout à fait. On l'appelle aussi cacha, je crois, dans les pays de l'Est, quand elle est torréfiée.
Oui, quand elle est grillée, exactement.
Et ça, c'est un goût terrible.
Ah,
si vous n'avez jamais
bon,
goûté,
vous avez raison.
Allez-y, hein.
Les graines de cacha, ça se voit un petit peu partout maintenant. Vous mettez ça dans une salade,
partout,
ça apporte du croustillant, c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? On dit crêpe ou on dit galette ? Olivier Pouls, vous dites quoi, vous ?
Bah, moi, je dis galette. Moi, je prends une complète, tenez, par exemple.
et vous, Anne-Laure Femme, qu'est-ce que vous dites ? Crêpe ou galette ?
Bah, je dis crêpe, forcément.
Vous dites crêpe. Alors, c'est vrai que galette, en général, c'est le nom qu'on donne avec cette crêpe qui est faite avec de la farine de sarrasin, uniquement pour le salé, hein, en général en Bretagne. La crêpe, elle est faite avec de la farine de froment, donc de la farine de blé, et on l'utilise surtout pour le sucré. Mais si on devait schématiser, on va dire qu'en Basse-Bretagne, à l'ouest de l'Aix Saint-Brieuc-Vannes, on parle de crêpe, qu'elle soit au froment ou sarrasin. Et en Haute-Bretagne, du côté de Rennes, justement, on fait la différence et on parle de galette au blé noir et de crêpe à la farine de froment. Et la différence, elle est aussi dans l'épaisseur. La galette, elle est plus épaisse en général. Alors, c'est vrai que pour faire une galette, en tout cas en Bretagne, il faut du blé noir, Olivier Pouls.
Et oui, il faut du blé noir. Vous savez que le blé noir est arrivé en Europe au XIIe siècle. C'est arrivé depuis l'Asie. Et pour des raisons économiques, en réalité, il s'est beaucoup développé parce que, n'étant pas considéré comme du blé classique, n'étant pas panifiable, on ne payait pas la dîme. Et donc, économiquement, on pouvait en plus le moudre chez soi parce qu'on ne repayait pas non plus la dîme au moulin. Donc, double économie pour les gens qui l'utilisaient. Et puis, il a un peu disparu parce qu'il était assimilé à la nourriture de pauvres pour faire sa réapparition récemment.
Heureusement, parce qu'il faut dire la vérité, c'est que 70% du sarrasin qu'on utilise en France pour faire des crêpes, il vient de l'étranger, il vient de Chine.
Et oui, malheureusement. Mais depuis, on a replanté du sarrasin. Il revient. Et puis, quand vous l'achetez, achetez du sarrasin breton, achetez du sarrasin français, bon Dieu, n'achetez pas du chinois.
Ben, nous sommes d'accord. Il y a autant de crêpes, de recettes de crêpes que de clochers en Bretagne, on peut dire, Anne-Laure Femme.
Hein. Bah oui, si vous faites un tour dans le Finistère, dans le pays Bigoudin, vous avez du lait. Près de Quimperlé, vous allez rajouter un peu d'eau. Dans les Côtes d'Armor, ça va être encore de l'eau. Certains vont rajouter aussi des œufs entiers ou des blancs d'œufs. Alors moi, pour ma part, j'aime bien rajouter de la bière blonde.
Ah oui, moi aussi, j'adore ça.
Voilà, vous prenez, si possible, de bonne qualité, une petite Fischer en supermarché, ça passe très bien.
Ouais, c'est bien, puis ça allège, et puis il y a ces belles bulles, et puis cette belle levure.
Ça permet à la crêpe de bien monter,
oui,
surtout.
Exactement.
Un côté très aérien.
Elle gonfle. Alors justement, on va aller faire chauffer le bilig maintenant, direction la pointe de la Bretagne, à Quimper. Le concours du meilleur crêpier 2019 a eu lieu il y a une dizaine de jours. Marion Sauveur y était. Alors cette année, c'est une crêpière qui a gagné, figurez-vous. Elle s'appelle Catherine Bezit. Elle tient une crêperie à Plouganou, dans la baie de Morlaix. Et vous allez entendre Olivier Belin, grand chef 2 étoiles dans le Finistère, qui est le président du jury de cette édition, qui annonce son nom. Et ensuite, Catherine nous donne ses astuces pour une galette réussie. Faites chauffer le bilig.
Catherine Bezit.
Ravi. En Bretagne, il y a énormément de recettes de galettes.
Tant de recettes que de crêpiers, je pense. Alors, du coup, nous, on est sur du 100% blé noir. On mélange en fait plusieurs types de farines. Forcément, on essaie de mettre un point d'honneur à travailler en local, en 100% français au moins. Et mes grands-parents étaient minotiers, donc je pense que ça a posé les bases quand j'étais petite. Sous nos yeux, on a un bâton fait avec donc les farines, sel, poivre et un œuf. Et là, en fait, pour la diluer, je vais la diluer au lait. Mes grand-mères les faisaient comme ça. Je les trouvais très bonnes, donc je perpétue. C'est une pâte que je fais à la main et que je redilue à la louche, tout simplement.
Alors, on passe à la cuisson.
Allons-y. En circulaire, on essaye d'épouser au maximum l'extrémité de la galette. Moi, je cuis que d'un côté. Je mets du beurre de Nucelle, on est en Bretagne.
Il faut du beurre dans la galette.
Voilà, il faut dedans. Et après, on peut en remettre une fois qu'elle est pliée sur le dessus. Ça va lui apporter du brillant. Voilà, moi, j'aime bien. C'est crasse, quoi. Ça veut dire croustillant, bien cuite.
C'est craquant, effectivement, sur l'extérieur et moelleux à l'intérieur.
Voilà. J'aime bien quand il y a les deux textures en bouche.
Et on a le goût du beurre salé.
Et c'est très bon.
Et comment que c'est très bon? Et bravo à Catherine pour cette belle recette de galette. Alors, le blé noir, c'est le sarrasin. C'est comme ça qu'on l'appelle ainsi. Qu'est-ce que vous aimez mettre par-dessus, tiens, de leur femme, vous?
Alors, je suis très agrume. Alors, je vais prendre une mandarine, clémentine ou une orange. Je vais ôter le zeste et un petit peu de jus. Et je vais le mélanger avec du beurre et un peu de sucre.
Ah, c'est bien ça. Oui, comme, comme la citron avec un petit peu de beurre. Oui.
Voilà, vous mélangez. C'est vraiment pas grave si vous avez un résultat granuleux, hein, vu que ça va fondre sur la crêpe. Et vous rajoutez, allez, une petite larme de Cointreau.
Ah, ben voilà. Je vous reconnais bien.
Avec
là,
modération.
C'est l'effet Olivier Pouls.
Ah oui,
Olivier
m'inspire,
Pouls,
c'est
qu'est-ce
m'amuse.
Que vous aimez comme garniture?
Moi, je suis très classique. On a parlé du jambon de Paris il n'y a pas longtemps dans cette émission. Une belle tranche de jambon de Paris authentique.
En salé.
En salé, bien sûr. Un vieux comté que vous allez râper par-dessus. Allez, soyons fous, mettons un œuf. Et puis, hop, on referme ça. On l'a fait croustiller. Pour moi, c'est le
la
top.
Complète.
Ah,
alors,
la complète.
Je voudrais vous faire écouter maintenant une recette de crêpes que j'adore, qui est culte, que vous pouvez trouver sur Internet, sur le site de l'INA. C'est Raymond Oliver, qui est un de nos plus grands chefs, qui a fait cette recette avec Catherine Langer il y a très très longtemps à la télévision, dans une émission qui s'appelait Art et magie de la cuisine. C'était la première émission de cuisine à la télévision dans les années 50.
Avant la vôtre?
Ah oui, bien avant la mienne. Et écoutez bien cette recette. Alors, ça démarre normalement avec de la farine, des œufs, du lait et un petit peu de vanille. Et après, pour détendre tout ça...
Ça vrille.
Ça vrille, mais écoutez bien comme ça vrille.
Voilà, maintenant nous allons ajouter le parfum. Car la vanille...
Ça n'est pas parfumé?
Non. Dani, n'est-ce pas?
Ouh là là!
Oui, il faut en mettre beaucoup. C'est du rhum qui rentre comme parfum principal. Voyez-vous, j'en mets environ trois fois plus ou deux fois plus que je n'ai mis Dani.
C'est le pastis.
Et en tout, ça doit donner un très grand verre à vin. Un très grand verre à vin de Bordeaux, c'est-à-dire pas loin d'un quart de litre. Alors, je vais la détendre, c'est-à-dire l'allonger.
Mais oui.
Avec de la bière.
Mais tiens,
oh, là, la quantité de bière. Nous sommes presque, pas tout à fait. Il faut encore en mettre un tout petit peu de bière là-dedans. On peut en manger des quantités.
C'est un autre genre de complète,
mais
en fait. C'est une complète,
écoutez,
en alcool.
Il faut le voir faire cette recette au jugé, au toucher. C'était un grand chef, on rigole.
Oui.
Mais alors justement, pour ne pas rigoler, j'ai voulu faire cette recette et je vous l'ai faite ce matin.
Ah.
C'est exactement la recette de Raymond Oliver que j'ai faite pour vous.
Avec les quantités. Hein.
J'ai mis les quantités. Alors, c'est vrai qu'on sent le rhum, hein, on ne va pas se mentir. C'est peut-être pas forcément pour les enfants.
On sent l'anis aussi un petit peu.
On sent le pastis, le mélange des deux.
Il n'y a plus d'alcool, évidemment, puisque tout ça a été cuit. Il n'y a plus de résidus d'alcool dans la crêpe.
Il s'est évaporé.
On peut donner aux enfants.
Mais c'est vrai que...
Mais en termes de goût, oui, on retrouve tous ces ingrédients.
Et elle se vaut toute seule, en fait.
On
n'a pas trop besoin de rajouter.
Et j'ai une
pâte
magnifique, liquide, sans grumeaux, qui était parfaite. Quoi.
Ah oui, elle est un peu épaisse. Enfin,
c'est un régal.
Et alors, un des autres classiques que j'adore, c'est la crêpe Suzette, qu'on
ne
voit plus beaucoup au restaurant.
Avec des zestes d'orange, du Grand Marnier et du jus d'orange.
Et voilà, avec du jus d'orange, on flambe tout ça.
Au cognac.
À l'époque, ça se faisait... En salle, sur le guéridon, ça a un petit peu disparu, mais qu'est-ce que c'est bon.
C'est la chandeleur, faites des crêpes les amis. On va parler du gluten justement, parce qu'il y en a dans la pâte à crêpes quand elle n'est pas faite avec du sarrasin. On en parle après le journal de la cuisine de Marion Sauveur. Et n'oubliez pas la confiture sur les crêpes. Allez, à tout de suite les amis.
On vous accueille tous à la table des bons vivants sur Europe 1. Et on vous écoute surtout grâce au répondeur. Si vous avez une question, faites le 39-21, 50 centimes la minute.
Merci d'être avec nous à la table des bons vivants. Votre ronde serviette vous attend tous les samedis de 11h à 12h30. Alors avant de retrouver Jean-Luc Petit-Renaud qui poussera un coup de gueule que vous êtes nombreux à partager d'ailleurs, c'est l'heure de passer au tamis, l'actualité de nos assiettes avec Marion Sauveur. Bonjour Marion.
Bonjour à tous.
Crêpe ou galette?
Ah.
Ah, c'est dur hein.
Allez, une petite
balance.
Galette.
Une petite galette, en salé alors. Hein,
oui,
si
salé
on veut
avec
faire comme
des épinards, j'adore ça.
Bon bah très bien. Eh bien c'est parti, c'est l'heure du journal de la cuisine, en route pour les titres Marion.
La loi alimentation est entrée en vigueur hier et depuis le prix de certains produits alimentaires ont augmenté dans les grandes surfaces. Février sans supermarché, c'est le nouveau défi pour ce deuxième mois de l'année. Et le salon de la gastronomie des Outre-mer a ouvert ses portes hier à Paris.
Alors, on en parle beaucoup depuis quelques jours. Les prix de produits alimentaires industriels ont augmenté depuis hier, Marion.
C'est la conséquence de la loi alimentation qui vient d'entrer en vigueur. Si elle permet aux agriculteurs d'être mieux rémunérés, elle interdit aux distributeurs de vendre à prix coûtant ou avec une très faible marge les produits alimentaires. Une centaine de marchandises parmi les plus consommées et de grandes marques subit donc cette hausse de prix, comme des conserves de petits pois carottes, des céréales pour le petit déjeuner, des crèmes dessert, des pâtes à tartiner ou encore des sodas. D'après Le Parisien qui a enquêté dans une grande surface, la hausse moyenne est de 6,3%. Le gouvernement estime que si les distributeurs font plus de marge sur ces produits industriels, ils négocieront moins les prix avec les agriculteurs.
Alors c'est vrai qu'il faut rappeler que l'objectif de cette loi, c'est de mieux rémunérer nos agriculteurs et de ne plus vendre à perte. Alors il va falloir être vigilant pour que ce ne soit pas hypocrite cette histoire. La grande distribution dit qu'elle va compenser avec des points fidélité et des choses comme ça pour compenser la perte du pouvoir d'achat. Donc on va surveiller, on fera un dossier spécial sur cette loi bientôt à la table des bons vivants. Allez, ben on continue dans le supermarché. Tiens, après le dry January, Marion, février sans supermarché.
Voilà votre nouveau défi, Laurent, pour ce deuxième mois de l'année, ne pas mettre les pieds dans un supermarché pendant un mois. Objectif, c'est encourager possible. Les commerces indépendants, les épiceries de quartier, soutenir les petits producteurs, favoriser la vente en vrac, le commerce local et réapprendre à n'acheter que l'essentiel.
Oui.
L'initiative vient d'un site écologiste suisse envers et contre tout.
C'est une bonne idée, ça se tente. Hein. Redécouvrons aussi les producteurs locaux et les circuits courts. La moitié des Américains qui pensent souffrir d'une allergie alimentaire se trompent.
20% des Américains croient être allergiques alors que seuls 10% le sont vraiment.
Ouais, les Français aussi à mon avis.
C'est le résultat d'une étude en tout cas publiée dans la revue JAMA Network. Parmi les allergies qui sont le plus surévaluées, celles aux crustacés, au lait, aux arachides et aux poissons. En France, l'INSERM estime qu'environ 2% des adultes souffrent d'allergies alimentaires. La mode est au sans gluten, la confusion règne entre vrais intolérants et hypersensibles. Des études sont en cours et Laurent, vous allez justement parler du gluten avec votre invité Victor Coutard.
Exactement, il n'a pas que mauvaise presse, vous verrez aussi le gluten. Cette semaine à Lyon, la finale du Bocuse d'Or a eu lieu, Marion.
Oui, le grand concours qui a lieu tous les deux ans. Alors le podium est 100% nordique, c'est le chef danois Kenneth Hansen qui décroche le Bocuse d'Or. Suivi donc de la Suède et de la Norvège, la France avec Mathieu Otto termine 6e de la compétition. Il remporte le prix spécial assiette.
Du soleil, les amis, la gastronomie des Outre-mer, tout le week-end est à l'honneur.
Et ça se passe au salon de la gastronomie des Outre-mer, Porte de Versailles à Paris. Un salon fondé par la chef Babette de Rosières. Colombo, poisson cru à la tahitienne, acra, bougna sont quelques-uns des plats que vous pourrez découvrir, tout comme un parcours pédagogique sur les épices. Pour cette 4e édition, la Louisiane est à l'honneur avec au menu notamment le jambalaya, ce plat traditionnel louisien, très épicé à base de riz, de saucisses et de crevettes.
Oh, c'est bien ça, alors tous à la Porte de Versailles à Paris pour prendre un joli coup de soleil en cuisine. Merci Marion Sauveur. Alors, des pâtes sans gluten, du pain sans gluten, des chips sans gluten, ça c'est un peu plus normal. La traque aux méchants glu vire parfois à l'absurde, hein, à moins que ça soit un filon pour les industriels, peut-être, on va en parler. Ce samedi, à l'occasion de la Chandeleur, on a envie de pousser un cri du cœur et de l'estomac. Vive le gluten, parce que tous les gluten ne se valent pas. Elle est là la feinte, vous allez le comprendre avec notre invité, c'est Victor Coutard, auteur d'un livre « I love gluten » aux éditions Ulmer. Bonjour Victor Coutard.
Bonjour.
Alors, pas question de dire que les allergies au gluten n'existent pas. Évidemment, non. La maladie cœliaque, elle représente 1% de la population en France. Mais il y a une mode qui est venue de l'Australie, qui s'est emparée du sans gluten depuis 20 ans. On va déjà revenir sur le point de départ de tout ça. Le gluten, rappelons ce que c'est que le gluten, Victor.
Le gluten, c'est une protéine présente dans la plupart des céréales et notamment dans le blé, farine et les farines avec lesquelles nous faisons notre pain, nos pâtes et la plupart de nos pâtisseries.
Alors ça sert à donner de l'élasticité aux pâtes, hein, ce gluten.
Exactement, le gluten, ça vient du latin glu qui veut dire la colle. Concrètement, le gluten sert, par exemple dans le pain, à capter les bulles d'oxygène. C'est la fine paroi qui se trouve autour des bulles dans l'ami.
Quand on regarde bien, on le voit un petit peu, hein, effectivement, le gluten. Alors, il y a une étude en 2011 du docteur Gibson qui est sortie sur l'intestin irritable. Vous en parlez dans votre livre. Alors, il a découvert d'autres causes d'allergie que le gluten. Et ça, on en a très peu parlé, en fait. Racontez-nous.
En fait, en 2011, le professeur Gibson explique que peut-être... parce qu'il a pris des précautions, il a dit peut-être, il a dit attention, il faudrait continuer les études, peut-être que les problèmes de digestion étaient liés au gluten. trois ans plus tard, en 2014, il a publié une nouvelle étude en disant « Ah non, peut-être que je me suis trompé, il n'y a pas que du gluten dans les céréales, il y a aussi des fameuses FODMAP. » Les FODMAP, c'est quelque chose de très très compliqué.
Des glucides ?
C'est un espèce de mélange de glucides, c'est un nom à dormir dehors, très très difficile à marketer, très difficile à comprendre.
Voilà, il y a différentes variétés, différentes sortes, effectivement, comme vous dites, compliqué à marketer et à comprendre. Et c'est vrai que l'industrie, elle a compris le truc, elle s'est dit « Tiens, le sans gluten, il y a peut-être un business derrière tout ça, donc on va proposer beaucoup de produits sans gluten. » C'est ça qu'on voudrait vous expliquer aujourd'hui dans cette émission. Et vous allez voir que toutes les variétés de farine ne se valent pas et que du coup, tous les gluten ne sont pas les mêmes. On continue à en parler sur Europe 1, la table des bons vivants, avec le livre « I love gluten » paru aux éditions Ulmer. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1. Depuis quelques temps, le gluten est au centre des débats. Et bien à la table des bons vivants, Laurent Mariotte a décidé de remettre certaines choses à leur place.
Accusé de tous les maux, hein, le gluten a bon dos. Alors pour mieux connaître ce faux méchant, découvrons d'abord d'où lui vient cette mauvaise réputation avec Victor Coutard, auteur de I Love Gluten. C'est un cri du cœur, hein, ce livre. C'est pas de la provoque, Victor. Pourquoi vous avez eu envie de faire ce livre ?
J'ai eu envie de faire ce livre pour défendre les artisans qui font bien leur travail. Mon livre n'est pas une attaque contre les personnes qui se prétendent intolérantes ou qui ne mangent pas de gluten. Mon livre essaie de défendre des artisans, des boulangers, des producteurs, des agriculteurs qui essayent de faire au mieux. Ceux-là sont victimes des attaques du marketing, notamment des attaques du marketing en lien avec ces fameuses intolérances. Et moi, j'ai eu envie de dire que Panadero Clandestino, Mamiche ou d'autres font un travail extraordinaire qu'il faut soutenir.
Il y a plein de boulangers en France qui font un beau travail artisanal avec du levain, justement. On en parlera tout à l'heure parce que, je le dis encore une fois, tous les gluten ne se valent pas. Alors, le no-glu est devenu une mode. C'est une mode qui a pris de l'ampleur avec le livre de Novak Djokovic, le tennisman, en 2015. Service gagnant, une alimentation sans gluten, c'était paru chez Robert Laffont. Et c'est vrai que c'est devenu un phénomène, cette histoire.
C'est devenu un phénomène incroyable qui est parti donc d'Australie, comme on le disait tout à l'heure, qui est passé par les États-Unis et qui est arrivé en France. On n'a pas de chiffres très très précis, mais on voit que tous les ans, ça gagne des parts de marché, le sans gluten gagne des parts de marché, et aussi crée une sorte d'angoisse généralisée autour de l'alimentation.
Alors sur la page Facebook du groupe de la table des bons vivants, on a posé la question suivante. Achetez-vous des produits sans gluten au supermarché ou ailleurs ? Jamais, toujours ou quelquefois. Jamais, 90% des gens de notre bande, si je puis dire, n'en mangent jamais.
Une bonne bande,
quelquefois 11% et toujours 3%. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est jusqu'à 300% plus cher pour un produit industriel sans gluten que son équivalent avec du gluten. Vous en parlez dans votre livre, les prix sont délirants. Hein.
Oui, j'encourage tout le monde à faire une expérience assez simple. Il suffit d'aller sur le site d'un supermarché. Moi, je suis allé sur le site d'une grande marque et de comparer, en fait, tout simplement. J'ai pris deux paquets de pâtes, deux spaghettis numéro 5 d'une même marque. Déjà, elles sont vendues avec des grammages différents. Le paquet traditionnel est 500 grammes, le paquet sans gluten est 350 grammes.
Malin.
Alors, on peut expliquer un peu la différence de prix parce que de la farine de blé est moins chère que, par exemple, de la farine de riz ou farine de maïs. Mais tout de même, 300%, ça fait quand même une sacrée différence sur un paquet de pâtes.
C'est terrifiant. Anne-Laure Femme, qu'est-ce que vous en pensez de cette mode sans gluten ? Je dis encore une fois qu'on n'est pas là pour pointer du doigt ceux qui sont vraiment allergiques et intolérants et qui ont la maladie cœliaque. Hein.
J'ai quelques amis donc, qui sont sujets à la maladie cœliaque. Donc, c'est ultra compliqué de leur préparer à manger. Ça demande de réviser vraiment pas mal de basiques par rapport à mes plats et mes recettes traditionnelles. Mais moi, quelque part, je me réjouis aussi que les industriels aient intégré cette offre dans leur gamme. Bien sûr, il faut qu'ils arrêtent de se moquer du monde et de pratiquer des marges scandaleuses. Mais voilà, plus les gens seront informés sur les enjeux du gluten et de ceux qui sont vraiment sujets à la maladie cœliaque, et mieux tout le monde se portera parce que voilà, on est tous là pour manger ce qu'on veut et comme on veut.
Et se faire du bien. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'on est aussi devenu peut-être intolérant au gluten parce que l'industrie a enrichi certaines farines avec du gluten. C'est ça que je voudrais que vous nous expliquiez, Victor Coutard. Tous les gluten ne se valent pas, ça dépend des variétés de blé, mais pas que.
Voilà, en fait, c'est d'ailleurs l'objet de mon livre. Il y a un problème avec le gluten, mais le gluten n'en est pas responsable. Mon point de vue est que l'on se trompe d'ennemi. Le problème n'est pas de manger avec ou sans gluten, le problème est de manger des bons ou des mauvais produits, des produits qui ont été faits avec amour, des produits qui ont été faits dans le respect de l'environnement, dans le respect de la nature. Dans les farines, aujourd'hui, la plupart des boulangeries appartiennent à des grands groupes meuniers. Ces grands groupes meuniers vendent une farine dite améliorée.
C'est ça.
Améliorée en quoi ? En gluten.
En gluten, avec d'autres additifs aussi, hein, parce que quand on prend une baguette tradition, il y a un cahier des charges bien précis, mais quand c'est une baguette standard, alors là, on a le droit à encore plus d'additifs. Et si on fait son pain avec une levure, par exemple, traditionnelle pour une baguette qui est faite avec de la farine très raffinée, blanche, et un pain complet, par exemple, qu'il faudra choisir bio, parce que si on prend une farine complète, évidemment, elle n'est pas raffinée, donc vaut mieux préserver les bonnes choses qui sont à l'intérieur en achetant bio, et qu'elle est faite avec du levain, le gluten ne réagit pas de la même façon.
Non, parce que le gluten a besoin de temps pour travailler. Dans le temps, dans ma Touraine, on parlait d'exciter le gluten. Le pain que je vous ai ramené aujourd'hui, il a fallu 16 heures, parfois même 72 heures pour pouvoir réussir à le faire lever. Les industriels, eux, prennent une, deux, peut-être trois heures maximum. C'est-à-dire qu'ils utilisent déjà une farine qui est ultra protéinée, dans laquelle on rajoute du gluten et qui, en plus, n'a pas le temps vraiment de travailler. Donc, c'est un gluten qui n'a pas le temps d'être prédigéré et qui, finalement, se retrouve à un état très brut dans votre estomac. Ce qui pourrait expliquer pourquoi certains se sentent ballonnés ou ont des problèmes de transition.
C'est ça, parce qu'on a enrichi ces farines avec du gluten aussi, et pour privilégier aussi une bonne tenue du pain une fois qu'il est cuit, en fait.
Exactement. D'ailleurs, peut-être que vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, les baguettes étaient bien plus grandes.
Oui.
On a réduit leur taille pour qu'elles puissent rentrer dans les congélateurs. Et bien, ça, c'est tout c'est le résultat d'un processus très général qui fait que plus on réduit la taille, on rajoute du gluten et ça permet de mettre la baguette en congélo et de la manger deux semaines plus tard.
Ah bah voilà.
Et il y a aussi une question de savoir-faire. Parce que typiquement, je vous ai ramené du pain de Panadero Clandestino. Il travaille avec.
Extraordinaire. Eh bien, on va le goûter justement. Alors, restez avec nous. On va goûter le pain. On va casser la croûte, comme on dit. Le gluten est un sujet qui ne laisse pas indifférent. On en parle avec Victor Coutard qui vient de sortir I Love Gluten. Ne bougez pas. On est bien sur Europe 1 avec ou sans gluten. À tout de suite.
Si vous aimez bien manger et surtout en apprendre toujours plus, eh bien, la table des bons vivants est faite pour vous, n'est-ce pas, Laurent?
Merci de nous retrouver à la table des bons vivants. Effectivement, Justine, à cette table, on est gourmand et curieux. Et aujourd'hui, on s'intéresse au gluten avec notre invité Victor Coutard, auteur de I Love Gluten. On vous dit tout sur ce mal-aimé dont nous avons pourtant bien besoin. C'est quoi le bon gluten, tiens, si on devait schématiser comme ça, Victor?
Le bon gluten, je pense que c'est deux choses. C'est des bons blés. Donc, c'est des blés qu'on a respectés, qui ne sont pas couverts de fongicides.
De cochonneries, donc bio essentiellement.
Essentiellement bio. Et c'est un savoir-faire artisan, le savoir-faire du boulanger, un savoir-faire qui, mine de rien, s'est émoussé ces dernières années et a manqué de disparaître sans qu'on s'en rende compte.
On a voulu faire une course contre le temps, il faut laisser du temps au temps pour faire un beau pain. Qu'est-ce que vous nous avez apporté là? Il est beau ce pain. On a une croûte magnifique qui est bien épaisse, une mie qui est alvéolée, qui est grise. Voilà, c'est une belle mie, on est sur de la céréale complète là, c'est quoi?
Alors ça, je vous ai apporté la Rolls-Royce du pain. Le pain de Panadero Clandestino, c'est un boulanger qui s'appelle Thierry Delabre. Et c'est du pain fait avec des blés de population. Des blés de population, c'est des champs où il y a différentes espèces de blés et qui sont très, très difficiles à panifier parce que c'est très instable. Ça change d'une année à l'autre, ça change d'une récolte à l'autre. Et donc, il faut toute la maestria de Thierry pour pouvoir réussir à faire ce pain qui met 72 heures à lever, à être créé et qui est fait avec un amour fou. Et je crois que ça se sent...
Et il est où?
Alors lui, il est à Gentilly et on peut aussi commander son pain sur sa page Facebook. Il livre dans différents endroits.
Ah, très bien. Et puis vous aussi, peut-être que dans votre région, vous avez des boulangers qui travaillent bien avec des blés de population, comme on dit, des variétés anciennes. Parce qu'il y a aussi tout ce travail de redécouverte des variétés anciennes de blé qu'on avait un petit peu mésestimé aussi.
Bien sûr, c'est un travail très important parce qu'une personne comme Thierry va soutenir un agriculteur, va lui acheter sa récolte et va lui permettre finalement de continuer son activité avec des blés qui sont respectueux de l'environnement, qui sont beaux dans le paysage et qui vont faire venir avec eux toute une faune et toute une flore qui en fait est bonne pour tout le monde.
C'est un pain qui a du goût, c'est-à-dire qu'il n'est pas neutre, il a cette petite acidité aussi caractéristique des pains qui sont montés au levain naturel, qui prennent beaucoup de temps à monter. Et c'est vrai qu'il a une texture incroyable.
Et encore une fois, ça c'est un pain qui se conserve, vous allez le garder 3-4 jours, donc plutôt qu'une baguette qui a été faite à la va-vite, effectivement, qui va durcir dès le soir, Anne-Laure Femme.
Moi je rajouterais une petite question très naïve, comment est-ce qu'on repère un bon boulanger, Victor?
Je pense qu'il faut lui parler déjà.
Ouais.
On est dans une société où on a besoin de discuter, et ces boulangers-là, il faut leur demander d'où viennent leurs farines, il faut leur demander comment ils font leur pain, il faut leur demander... En fait, ce qu'ils aiment, et je crois que c'est la meilleure façon de savoir.
Exactement, la transparence, poser des questions sur la traçabilité. Eh bien, merci beaucoup Victor Coutard d'être venu à I Love Gluten, Paris aux éditions Ulmer. Et puis on retrouve aussi vos reportages dans un magazine qui est sublime, qui s'appelle Regain, qui est un très beau magazine qui met en avant nos campagnes et puis les personnes qui font vivre nos campagnes, voilà, les agriculteurs, qu'ils soient anciens ou néo-ruraux, comme on dit aujourd'hui. Merci d'être venu Victor Coutard.
Merci à vous.
Chaque semaine, vous le savez, la carte blanche pour partager avec nous ses coups de cœur et ses coups de gueule. Eh bien, cette semaine, le camarade Petit Renaud déchante face aux musiques de plus en plus présentes dans les cafés et les restaurants. Bonjour, bonjour l'ami Jean-Luc. Alors en Bougonne aujourd'hui ?
Et voilà le travail, la musique à table. C'est quand même quelque chose de redoutable cette histoire. C'est que vous ne pouvez pas prendre votre fourchette, votre couteau et commencer votre entrecôte sans que Madonna vienne s'asseoir à côté de vous, sans que Mylène Farmer se mette sur la table, sans que Michael Jackson passe par là. La musique d'ambiance, parfois, m'agace. Alors heureusement, il y a quelques années, on n'avait que Klederman, le pianiste. Bon, on lui a confisqué son piano, maintenant on est un peu plus tranquille. Mais ce mauvais choix de la musique, même dans le plus petit bistrot de province, là où mon pépé Dédé est au comptoir en train de boire son petit rosé, eh bien derrière, sur grand écran, il y a Lady Gaga qui chante. Mais Madame Gaga, pas pendant le rosé, ça va pas, c'est indigeste. Cette rubrique est comme une supplique. Aujourd'hui, faites très attention à cette musique, sauf à celle que je découvrais un jour rue de Vaugirard chez Maurizio, un Italien. Et lorsqu'on poussait la porte, il était là en train de tourner les pattes du client dans un magnifique parmesan évidé. Oh, et là, il chantait les plus beaux opéras de Venise, de Naples, de Rome. Et il avait le porté sa voix d'une manière absolument formidable. Là, je suis pour la musique parce que c'est une véritable scène. Et la scène, eh ben, c'est le théâtre de la table. Alors, il faut être très attentif à tout cela.
Comme c'est bien dit, merci camarade Jean-Luc Petit Renaud.
Il y a encore pire, hein, c'est la télévision en mangeant.
C'est exactement, bah c'est ce que j'allais dire. Oui. Bah, carrément, vous avez cité une chaîne. Vous.
Ah non, moi je l'ai dit, on arrête, c'est partout, dans tous les hôtels.
Mais, non mais blague à part, on digère mal devant la télévision, encore plus devant des actualités, des choses comme ça qui peuvent être stressantes et tout ça. Donc mangeons dans le calme. Effectivement, Maurizio avec ses chants d'opéra, c'est autre chose qu'une radio qui est en sourdine, par exemple, dans le restaurant.
Sinon, il faut du swing ou du jazz, quelque chose de doux et consensuel, ça marche.
Pour bien digérer. Eh bien, merci Anne-Laure Femme, merci Olivier Pouls. Restez avec nous, les amis. Dans un instant, nous allons recevoir notre invité à la table des bons vivants, Raphaël Mesrahi. Vous allez entendre qu'il n'est pas venu les mains vides. Un joli plat de pâtes préparé par sa maman, dites donc. A tout de suite.
Europe 1. La table des bons vivants ne cesse de s'agrandir au fil des heures. Et justement, Laurent, il est temps de mettre un couvert de plus.
Merci d'être à l'écoute des bons vivants, les amis. Nous sommes ensemble depuis 11h. Et comme tous les samedis, juste avant midi, c'est l'heure d'accueillir notre invité. Alors, il est né à Sousse, en Tunisie. Il était élevé à Troyes dans l'Aube, au fricassé de sa maman et à l'humour décalé de son papa. Il débarque à Paris comme assistant de casting pour Super Sexy et enquêteur pour Perdu de vue. Trop décalé, il est viré pour notre plus grand bonheur, celui des fausses interviews dans lesquelles il se fait passer pour Hugues Delatte, vous savez, le très mauvais journaliste. Il a même piégé Brad Pitt, George Clooney et James Brown. Producteur et vrai intervieweur dans l'humour de sa vie pour C8, il est en tournée dans toute la France avec son spectacle « Ma grand-mère vous adore ». Il adore être là où on ne l'attend pas, et bien ça tombe bien, il revient le 11 février avec la 6e édition de la Nuit de la Déprime au Casino de Paris. Raphaël Mesrahi, notre invité.
Quel accueil, merci monsieur Laurent Mariotte.
Bonjour Raphaël Mesrahi.
Bonjour Olivier, bonjour.
En pleine forme ou déprimé alors ?
Non, ça va, non, bien. Enfin, déprimé, oui, enfin, c'est mon quotidien. Quoi,
mais alors, il faut expliquer ce qu'est cette nuit de la déprime, qui est un événement.
Mais déjà, il faut expliquer qui je suis. Parce que
mais bien sûr qu'on sait qui vous êtes.
Non, on connaît le mec qui fait les interviews en général. Non, on sait
trop, que vous êtes lunaire, que vous êtes décalé, que vous aimez les animaux.
Oui, ma seule unique religion, moi, c'est le respect de la vie. Le reste, je m'en fous complètement. Donc les animaux c'est essentiel, enfin tous ceux qui sont dans le besoin c'est essentiel, voilà, donc c'est la vie quoi. Et les animaux bien sûr, et les gens qui me disent pourquoi tu aides beaucoup les animaux, je dis en pourcentage par rapport à ce qu'on les fait chier, c'est quand même pas grand chose que je leur donne, donc voilà.
Alors cette nuit de la déprime c'est pas un canular, hein.
Non.
Célébrez la déprime grâce à ce spectacle dans lequel les chanteurs viennent chanter leurs chansons les plus tristes, il y a un joli casting encore cette année, le 11 février.
Le truc qui est étonnant, c'est parti d'une connerie il y a 6 ans, et là ça monte en puissance et c'est de plus en plus haut de gamme.
Il y a Nolwenn Leroy.
Oui, il y a Nolwenn, il y a Yvan Cassar, il y a Nathalie Dosset, il y a Ibrahim Malouf comme parrain, il y a Jean-François Zigel au piano.
Il reste des places là pour le 11 février ?
Il en reste quelques-unes.
Voilà. Et d'ailleurs, la recette est reversée à une
100%
association.
100% de la billetterie, c'est reversé à plein d'associations pour animaux. Et je me déplace moi-même et je remets les chèques moi-même.
Ça, c'est une bonne chose. Ouais. Quel est votre goût de la semaine, Raphaël Mesrahi ?
À part la couffaine que j'ai eue à deux jours, rien, non, ça, c'est toujours spaghetti tomate. Hein. Moi, je suis resté bloqué là-dessus.
Ah, mais on se connaît très bien.
Saison, hein.
Mais c'est de la sauce tomate maison, bien sûr.
Oui, fait avec les tomates, avec les tomates du jardin de cet été.
Exactement, voilà, il écoute bien les bons vivants, c'est très bien. Non, mais je le connais depuis 30 ans. Si vous voulez lui faire plaisir, c'est un plat de spaghetti tomate avec un petit œuf coq au milieu.
Voilà. Ah,
ça vous plaît, c'est bien.
Ouais.
Vous êtes végétarien, mais pas vegan. Entre les deux.
Je mange pas d'animaux, maintenant un œuf de temps en temps, comme ça, il n'y a pas de problème.
Alors, on fête la Chandeleur aujourd'hui. On a testé cette recette de pâte à crêpes de Raymond Oliver.
Incroyable.
On sent bien le rhum.
Oh, c'est magnifique.
Le pastis, la bière. Vous la retrouverez sur le site.
Raymond Oliver, j'ai réécouté il y a une semaine sur un podcast radio de l'époque. Quand il faisait une émission dans les années 50.
Exactement, le chef du Grand Véfour.
Ouais. Et je suis resté, je me suis bougé. Il était 2 heures du matin et j'écoutais jusqu'à 3 heures et racontait sa vie. C'était un des plus grands collectionneurs de livres de cuisine, Raymond Oliver.
C'était
incroyable.
Un érudit de cuisine. Et on salue son fils, Michel Oliver, qui faisait des super émissions de cuisine et qui nous écoute.
J'ai grandi avec lui.
Le samedi, moi aussi, justement. Michel Oliver, qui était un personnage magnifique.
Et papa était avec Catherine Langeais, je crois. Et en présentation,
exactement. On a passé un extrait tout à l'heure. Alors justement, en ce jour de Chandeleur, on a envie d'expérimenter la pâte à tartiner maison.
Très bien.
Et c'est Anne-Laure Femme qui s'y colle. Chaque semaine, vous explorez comme ça une recette, une tendance. Aujourd'hui, pâte à tartiner maison, Anne-Laure. D'ailleurs, on va revenir sur la composition de cette pâte à tartiner qu'on trouve partout en supermarché déjà. Qu'est-ce qu'il y a dedans,
tiens ? Raphaël, dites-moi. Qu'est-ce qui compose la majeure partie des pâtes à tartiner des supermarchés ?
La plus connue, c'est l'huile de palme.
Ouais.
Mais autrement, après les autres, du chocolat, des noisettes.
Alors c'est d'abord le sucre.
Beaucoup de sucre.
Beaucoup de sucre.
Sucre et gras, 72%.
Ah quand même.
Pour la composition du Nutella.
72%.
Et la noisette, elle arrive avec seulement 13%.
Ah, c'est pas beaucoup.
Voilà, très très peu. Qu'est-ce qui fait qu'on est accro à ces pâtes à tartiner ?
Eh bien, c'est ce qu'on appelle la palabilité, Laurent. Pour que ça enrobe bien le palais, que ça ait un goût de reviens-y, de sucre et de gras mêlés, c'est irrésistible. D'ailleurs, vous avez près de 3 kilos de pâtes à tartiner qui sont mangées chaque seconde en France.
Ah oui, on aime ça. Hein.
Donc, soit 84 000 tonnes par an. On est les
incroyable.
Plus gros consommateurs au monde de pâtes à tartiner. Et c'est le fameux Nutella, évidemment, de Ferrero qui détient le monopole avec plus de 75% des parts de marché.
Et oui, avec beaucoup d'huile de palme. Il y a un gros débat sur cette huile de palme aussi qui est responsable de la déforestation dans certains pays.
Voilà, et je préfère le dire, certifiée durable ou pas, l'huile de palme, ça reste désastreux pour l'environnement. Vous avez des sources que j'indiquerai sur europe1.fr avec des enquêtes qui ont été faites par les associations. Voilà, il n'y a pas à déroger l'huile de palme. On la boycotte, s'il
vous
plaît.
Alors, si on veut la boycotter, justement, et en faire à la maison, c'est quoi la recette ? Vous en avez fait une, justement ?
Alors,
racontez-nous.
J'en ai fait une. Je vais demander à Raphaël de bien vouloir tremper sa cuillère dans
tremper
le pot.
Votre cuillère.
Alors, je vais... Aveu terrible, je n'ai pas réussi à reproduire exactement le goût et la texture du Nutella. C'est impossible.
On ne peut pas, oui. Alors, s'il faut expliquer, effectivement, qu'au début, ça peut être déroutant. Mais encore une fois, essayons de lutter contre cette standardisation du goût en allant vers des saveurs comme ça, un petit peu plus brutes et originales. Il y a quoi dans votre pâte à tartiner ?
Alors, moi, j'ai mis beaucoup de chocolat, j'avoue. De chocolat noir à 70%.
Ouais.
D'une marque que j'aime beaucoup, il s'appelle Valrhona. Vous avez aussi beaucoup de noisettes. En fait, j'ai mis autant de noisettes que de chocolat.
Ah, elle est bonne, oui.
Et j'ai rajouté aussi un peu de lait et de poudre de lait. Vous allez me dire pourquoi la poudre de lait ?
La poudre de lait ?
C'est pour ajouter de la texture et pour qu'elle se tienne bien.
Oui, parce qu'on retrouve quand même ce petit côté coulant, nappant du Nutella.
Vous en pensez quoi, messieurs ?
J'en pense beaucoup de bien.
Ils disent rien, c'est bon.
Très bien, bravo. Laissez parler.
Et surtout, bravo pour la texture, parce que c'est souvent compliqué. Soit elles sont trop liquides, soit elles sont trop dures. Là, elle est parfaite.
Très bien.
Elle se tartine bien.
C'est un truc compliqué avec les recettes de pâte à tartiner maison que vous trouverez sur internet. Souvent, elles vont vous conseiller de faire votre poudre de noisette. Moi, j'ai testé. J'ai un blender un petit peu fatigué, donc il n'a fait que de la poudre. Ça n'a pas assez chauffé pour faire de la pâte.
Donc, on peut l'acheter, la pâte.
Exactement, c'est ce que j'allais vous conseiller. Achetez de la pâte à noisette si vous ne pouvez pas faire de la vraie pâte noisette avec votre blender.
Sinon, on
pas
peut acheter des noisettes aussi, comme ça, sans la peau, émondées. On les fait torréfier à la poêle et on les mixe
très
quand on a un bon blender, un bon mixeur.
Justement, les torréfier au four. four, 12-15 minutes. Surtout pas noircies, voilà. Il faut qu'elles soient juste dorées. Et hop, vous les sortez aussitôt du four et vous les frottez bien fort avec un torchon ou un sac. Moi, je prends un sac à congélation et je le secoue très fort, un petit peu comme si j'étais Tom Cruise, et... cocktail, noisette et compagnie.
Et
ça enlève les peaux. Voilà.
Et ben voilà, faites ça ce week-end. C'est la Chandeleur et redécouvrez les plaisirs du fait maison avec une pâte à tartiner maison. On vous mettra toutes les références
et la recette
sur Europe1.fr et la recette, bien entendu. Il est bientôt midi sur Europe 1, les amis. C'est l'heure de se mettre à table avec Raphaël Mesrahi,
bon
notre
appétit.
Invité. Oui, et le plat du jour, il est signé votre maman Lulu. Un joli plat de pâtes cuisiné à la tunisienne. Restez avec nous, ça va être un grand moment de radio, je pense. A tout de suite sur Europe 1.
Allons-y, allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Chaque samedi, on met le couvert à la table des bons vivants de 11h à 12h30 sur Europe 1. Recettes, produits de saison, actualité du bien manger, vous êtes ici chez vous. Et Raphaël Mesrahi est notre invité. Il est à la tête de la Nuit de la Déprime le lundi 11 février au Casino de Paris avec un beau casting. Hein. Nolwenn Leroy, Morehead, Laurent Baffy, André Manoukian, Gérard Lenormand, que du beau monde, Raphaël Mesrahi.
Oui, et puis plein d'autres des invités surprises de dernière minute. Et là, c'est gros niveau encore, donc c'est bien. Quoi, je suis
oui,
content, ouais.
Ce qu'il faut expliquer, c'est que vous êtes un fou, un fan de musique, ouais. De son. Hein, les auditeurs ouais. Ne le savent peut-être pas, mais vous êtes un dingue de chansons et de musique. Vous faites des CD pour les copains, je suis bien placé pour le savoir.
Ah oui, c'est vrai, je fais plein de CD, plein de sons, j'aime bien. Ouais, j'ai l'équivalent de 40 000 albums à peu près. Mais enfin, mon vrai truc, moi, c'est les animaux, la musique. Le reste, je m'en fous complètement, quoi.
On parle de musique, tiens.
Oui.
On parle de musique. Vous vous êtes mis à la chanson aussi à un moment.
Ah bon ?
Et une chanson un petit peu
ah, oui,
culinaire.
Oui,
vous
oui,
avez poussé la chansonnette. Vous avez fait rimer potager et chanson engagée. Écoutez.
Les carottes, ça a des poils. Le radis, ça a des poils. Les betteraves, des longs comme ça. Les tomates, ça n'en a pas.
Vous la connaissiez avec... pas, tiens.
Vous la connaissiez pas,
non,
la,
non.
La 40... tête d'Olivier Pouls.
Ça m'a échappé.
Mais oui.
49e au top 50, quand même, avec ce truc-là. Quoi.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Mais
je suis,
c'est vrai.
Je suis entré dans le top avec ce truc.
Absolument.
Mais le truc qui est rigolo, c'est que je cherche un petit môme de 8 ans, petit chanteur d'opéra, un truc sérieux, là, pour la nuit de la déprime, pour chanter une jolie chanson le 11 février prochain au Casino de Paris. Et il y a un gars, un mec, 34-35 ans, un peu baraqué, qui vient me voir, il me dit « je vous dérange pas », je dis bah, « allez-y ». Il me dit « voilà, donc vous m'aviez embauché, j'avais 12 ans, j'ai dit « ah bon, pourquoi faire ?» Il me dit « j'étais chanteur dans votre disque, sur votre disque,
les
carottes, ça a des poils ».
Quel CV, choriste sur les carottes, ça a des poils.
Avec les petits chanteurs d'Anières. Je dis « qu'est-ce que vous faites maintenant ?» Il me dit « je suis chef des petits chanteurs d'Anières ». Je dis « bah vous allez m'en trouver un ». Et grâce à cette rencontre, j'ai trouvé, voilà. Ouais, c'est incroyable.
Ah bah magnifique, belle histoire.
Ouais.
Alors c'est l'heure du plat du jour à la table des bons vivants. Et c'est le vôtre, cher Raphaël Mesrahi. Alors, je vous connais
Alors
bien.
Le mien, hein. Sud-maman.
Sud-maman, exactement. Vous aimez bien manger. Mais vos goûts sont très ciblés. Vous êtes végétarien.
Ouais, vraiment. Ouais.
Si vous pouviez vous nourrir que de pâtes, vous le feriez, en
ouais,
fait.
Ouais, ouais, bah oui. Oui. Je démarrais dans la vie, j'ai mangé des pâtes. Et là, je mange toujours des pâtes. Donc, oui. Je suis resté bloqué.
Alors, il y en a qui mangent des sandwichs. C'est Aznavour qui disait ça. Dans la vie, quand on démarre, on n'a pas d'argent, on mange des sandwichs.
Oui.
Et quand on a réussi, on n'a plus de temps. Donc, on mange toujours des sandwichs. Voilà. Donc, c'est bien d'être un peu monothématique. Alors, le plat du jour, effectivement, est signé de votre maman Lulu, qu'on embrasse, qui nous
Évidemment.
Écoute. Et c'est un de vos plats préférés. Dites le nom.
Les halalam, je crois. Hein.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça.
C'est un plat tunisien à base de pâtes. Alors, elle fait les pâtes elle-même, c'est
oui.
Ça qu'il faut comprendre.
Oui. Ah bah oui, elle fait les pâtes elle-même devant la télé et après, elle prépare sa sauce. Donc, c'est fait à base de pois chiches, lentilles, pâtes. Donc, c'est complètement vegan,
alors,
pour le coup.
Ce qui est génial, oui. C'est que vous avez enregistré votre maman pour nous en train de faire cette recette de pâtes.
Voilà.
Vous pourrez la refaire à la maison, amis auditeurs. Écoutez bien, les halalem avec la pâte faite maison et puis la petite sauce qui l'accompagne. Lulu, on vous écoute.
La semoule fine, super qualité. On mouille avec de l'eau, simplement, comme la pâte à modeler.
Là, c'est ta bague de fiançailles qu'on entend.
On entend là. Ah bah écoute. Je commence à confectionner ces pâtes qu'on appelle halalem. H-L-A-L-E-M. Le plat tunisien. Tous les plateaux sont garnis. Je les laisse toute la nuit. Le lendemain, c'est sec. Et puis j'essaye de tout le réunir, regrouper et laisser sécher encore un jour avant de les ranger en bocaux.
Et tu fais ça quand en général?
En principe, devant la télé, avec Colombo. Et je passe mes soirées comme ça. Dans la marmite, mettre l'équivalent de 4 cuillerées d'huile. Un oignon râpé. Râper une tomate également. Ajouter une cuillerée de concentré de tomate. De l'harissa. Une cuillerée de paprika doux. 2 éclats d'ail écrasés. Je touille, je touille, il faut bien touiller. Hein. Je vais l'allonger avec l'eau, environ 1 litre d'eau. Une fois à ébullition, je mettrai les pâtes d'abord.
Ah, tu voilà. Les fais bouillir dedans.
Ah c'est oui, ça. Dans la sauce, voilà.
Ah, d'accord. Dans la sauce avec 1 litre d'eau. Et par rapport à une durée de colombo, c'est tu fais combien de plalums à peu près?
Oh bah je fais au moins une dizaine de plateaux.
Une dizaine de plateaux par épisode de Colombo.
Ah oui, environ.
À peu près, ouais.
C'est bien, hein. Il est payé cher, hein, Colombo.
Qu'est-ce que
faut
c'est
pas
bien.
Qu'il y ait des programmes
Bravo,
Colombo.
Bravo, Lulu. C'est très, très bon.
C'est magnifique.
Blague à part, c'est sublime. C'est exceptionnel. Ouais. Ça ressemble aux petites pâtes qu'on appelle les langues d'oiseaux ou
oui,
les risettis.
Oui, c'est exactement ça. Ouais.
C'est sublime. Alors, elle fait cette sauce ensuite avec des pois chiches et des lentilles. Si on les a fait tremper la veille, on enlève la peau des légumineuses. On les plonge dans le bouillon avec les pâtes 5 minutes avant la fin, c'est
oui,
ça.
Oui, ça se fait très rapidement. D'ailleurs, j'étais sidéré tellement c'était rapide, quoi.
Alors, ce qu'il faut expliquer, vous qui êtes végétarien, Raphaël Mezrahi, ça, c'est ce qu'on appelle un plat complet. Ah. Parce qu'il y a des céréales, celle de la semoule de blé dur et les légumineuses qui apportent l'équilibre, effectivement, avec ses pois chiches et ses lentilles. Donc, ça, c'est très nourrissant. Olivier Pouls.
Et ce qu'il faut dire aussi, on va trahir des petits secrets, vous vouliez le réchauffer. Malheureusement, pas de plaque en studio,
oui,
elles
exactement.
Sont pas encore arrivées.
Et il est comme moi, il est anti-micro-ondes.
On le mange froid, mais bien, c'est très bon froid aussi.
Alors, j'ai laissé à température, donc
c'est bon.
Je ne l'ai pas mis au frigo. Mes températures, donc il y avait un petit bouillon qu'elle m'a préparé juste avant. Elle me dit voilà, tu mets ça, tu touilles avec le petit bouillon, comme ça va donner un peu de légèreté au plat. Donc voilà.
Eh ben bravo.
Et le bouillon est pimenté juste.
Ah oui, juste ce qu'il faut.
Très bien équilibré. Ouais. Bravo Lulu, et on vous mettra la recette sur europe1.fr. C'est la maman de Raphaël Mezrahi, Lulu, qu'on embrasse. Ne bougez pas. On revient tout de suite avec Raphaël et nous répondrons aux questions que vous avez posées sur le répondeur des bons vivants, le fameux 39-21. À tout de suite, les amis. Vous êtes bien sur Europe 1.
Pendant une heure et demie, chaque samedi, on se régale à la table des bons vivants. Tout ça grâce à l'équipe, mais aussi grâce à notre invité, Laurent.
Des crêpes, des galettes, de la bonne pâte à tartiner et des pâtes tunisiennes. Oui, Justine, depuis 11h, on se met à table sur Europe 1 avec Raphaël Mezrahi, qui est notre invité. Et vous êtes même venu avec une petite douceur pour votre nuit de la déprime
mais
du
oui,
11 février.
Avec des madeleines faites par
Gilles Marchal.
Oui, bah Gilles Marchal,
un de nos plus grands pâtissiers
talentueux,
qui est sur
généreux,
la butte Montmartre. Si vous habitez en, qui est Lorrain, qui est pas Vosgien, qui est
Lorrain. Oui,
si vous venez à Paris, amis auditeurs qui nous écoutez en région, allez sur la butte Montmartre, allez faire un petit tour chez Gilles Marchal.
C'est extraordinaire.
Il a des madeleines, des pâtisseries. C'est vraiment la pâtisserie de quartier comme on les aime. Ouais. Olivier Pouls, un verdict.
Ultra moelleuse. J'ai attrapé nos citrons. Le citron est juste bien calé dedans. Elles sont extraordinaires.
Et le petit glaçage là, qui rajoute un petit croquant et le moelleux juste après.
Pourquoi
Top.
Les madeleines?
Parce que pleurer comme une madeleine,
et bah voilà.
C'est votre idée en plus.
Pour la nuit de la déprime.
Et on offre des madeleines à tous les spectateurs qui viennent.
Au Casino de Paris.
Ouais.
Et bah c'est beau, bravo.
Alors, entre autres.
Vous le savez, chaque samedi on répond aux questions que vous avez posées sur le 39-21. Agriculture, alimentation, recettes, vraiment tous les sujets sont les bienvenus. On a une première question de Léa au 39-21.
Bonjour Laurent. Léa de Chartres, je vous appelle parce que j'aime beaucoup le saumon, mais j'aimerais bien connaître d'autres poissons qui sont simples à cuisiner et qui sont pas trop chers surtout. Merci pour vos idées, les bons vivants.
Eh bien, merci pour votre question, Léa. Vous avez raison, il faut changer du saumon. On achète trop de saumon, trop de cabillaud. Donc, du coup, le saumon, on sait ce que ça donne. Il y en a qui sont mal élevés.
Le saumon n'est pas bon marché.
Et qui n'est pas bon marché.
Le saumon, c'est plutôt cher.
Donc, déjà, il faut le privilégier label rouge ou bio. Donc, il est forcément plus cher. Non, il y a des poissons alternatifs comme le lieu noir, qui est un cousin du cabillaud, qui ne coûte pas cher. Ça, c'est magnifique, un beau lieu noir.
Le maquereau, bien sûr, les sardines.
Le hareng, le taco aussi, qui est un cousin du merlan. Moi, je me souviens encore de ma grand-mère qui achetait du merlan au poissonnier ambulant. C'était vraiment un poisson bon marché, ça l'est toujours. Redécouvrons ces poissons un peu méconnus parfois et cuisinons-les simplement dans un petit filet d'huile d'olive. On peut faire des merveilles avec.
Et puis, si on n'a pas envie de manger du saumon, on peut aussi manger de la truite.
Oui.
Il y a des truites d'élevage, bio notamment,
absolument.
Qui sont très bonnes.
Ah oui, exactement, c'est ce que je dis souvent. Plutôt qu'un saumon mal élevé, mieux vaut une truite bien élevée. On s'y retrouvera aussi au niveau du budget. Une question de Christophe sur la page Facebook des bons vivants. Cette saison, on est en plein dans la chandeleur. Comment faire une pâte à crêpes légère et de bonne qualité?
Avec de la bière.
Et sans grumeaux.
La bière,
c'est vrai. Une pâte à crêpes bien liquide, comme celle de Raymond Oliver qu'on a testée tout à l'heure. Anne Lorfam.
Et le temps de repos, hyper important. Ça
exactement.
N'en rajoute qu'au goût de votre pâte à crêpes. On ne l'a pas dit tout à l'heure,
non.
Il me semble. Au moins une nuit de repos.
Mais comme les gaufres,
il
faut que ça repose.
Il faut que ça repose.
Pareil.
Une nuit, c'est beaucoup. Hein. Mais déjà une heure, ça fait du bien. Mais une nuit, alors là, c'est vrai qu'on aura une pâte qui sera parfaite. Quand on n'a pas le temps, il faut bien la détendre, effectivement, avec du lait, avec de la bière. Et puis, si on veut se faire plaisir. Avec des alcools, comme Raymond Oliver, qui est allé avec le pastis et le rhum, l'ani, comme il dit, à gogo. Vous le savez, hein, donc chaque semaine, le 39-21 attend vos appels. On a une question, tiens, aussi de Tibère au 39-21.
Bonjour Laurent, je m'appelle Thibert, je viens de Paris. Et il se trouve que je n'aime pas le fromage. Et je vais au ski dans pas longtemps. Et je voulais savoir si vous aviez des recettes à me proposer. Des recettes qui tiennent au corps un peu, mais bah, du coup sans fromage. Voilà, merci.
Eh bien, l'Erlalem de Lulu.
Oui, c'est bien, oui.
L'Erlalem de Lulu, la maman de Raphaël Mesraï.
On peut aller à la montagne non plus. Hein, c'est pas...
Non, mais blague à part, c'est vrai. Non, mais c'est bien la montagne.
C'est, non, mais c'est vrai, super. Le ski sans j'adore. Fromage, c'est un peu triste. C'est, oui,
c'est
un truc.
C'est compliqué, c'est vrai que ça va être dur pour lui. On compatit, Tibet. Ça va pas être simple. Vous pouvez faire une fondue, pas avec du fromage, mais bourguignonne.
Oui, oui, oui. C'est de l'huile et puis on trempe les morceaux de viande directement. C'est un peu grassouillet.
C'est un petit peu grassouillet.
L'appartement en général s'en souvient.
Le vin chaud.
Le vin chaud.
10, comme ça, il a oublié. Ouais, tiens, j'ai peut-être mangé, je ne me rappelle plus.
Non, mais oui, c'est par exemple. Oui. Faites des gratins aussi, hein, des pâtes avec une béchamel, des pommes de terre, des choux-fleurs,
ah oui,
des légumes
bien, ça,
de
voilà.
saison. Faites de jolis gratins à la montagne.
Les
crozets,
les
voilà.
crozets, ce que j'allais dire.
Les
en fait,
savoyardes.
Le problème, c'est que si vous êtes en location, évidemment, vous avez super
fromage,
super cher.
Un gratin sans fromage, c'est compliqué quand même. Hein.
Bah ouais, mais
on peut
y arriver.
C'est très
on
bien.
Peut,
oui.
On peut
oui,
faire un gratin sans fromage.
Il faut, il faut.
Ça gratinera moins la surface,
moins, voilà,
forcément.
C'est ça,
voilà. Mais ça peut marcher quand même. Voilà, vous le savez, le 39-21 attend vos appels, donc n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous répondre. Raphaël Mesraï est notre invité à la table des bons vivants. Ne bougez pas. Juste après la pause, nous allons le cuisiner avec notre questionnaire. A tout de suite sur Europe 1. Après la pâte à tartiner maison et l'erlalem de Raphaël Mesraï, on continue à se faire plaisir à la table des bons vivants. Et avant d'ouvrir une bouteille de vin jaune, c'est ça Olivier Pouls, hein, une belle bouteille de vin jaune.
Une très belle bouteille
oh là
de vin
là,
jaune.
Restez avec nous, on écoute Mark Ronson et Miley Cyrus sur Europe 1. Bon week-end les amis.
Europe 1.
Pour Laurent Mariotte, l'expression de plus on est fou, plus on rit est très très importante. C'est pour ça qu'on la met en place à la table des bons vivants, bien évidemment.
Une bonne table est une table qui s'agrandit. Et bien, c'est ce qui se passe depuis 11h sur Europe 1. Raphaël Mesraï est notre invité. Alors, après avoir mené de fausses interviews, des interviews décalées, ce sera votre tour d'être cuisiné dans un instant, Raphaël.
D'accord.
Mais juste avant, on va retrouver les deux minutes du vin d'Olivier Pouls. Et à propos de vin, tiens, vous êtes amateur de vin, Raphaël ?
Oui, oui, tranquille, modérément, oui.
Et de champagne aussi ?
Ah oui, je suis champenois, donc voilà.
Vous avez même votre cuvée de champagne
oui,
vegan.
Et je respecte surtout tous ces gens qui font ce boulot. On m'a nommé championnat de l'année parce qu'ils m'aiment bien les vignerons. Ils m'ont dit tiens, viens faire une photo avec nous à côté du pressoir. J'y suis allé. Et là, pendant une heure, il me dit qu'est-ce que tu fais ? Je dis bah, je ramasse les coccinelles, les pinces-oreilles, tout ça, parce qu'ils sont tous dans le pressoir.
Oui,
moi, ça me dérange.
C'est bon signe des animaux.
Comment ?
C'est bon signe s'il y en a dans le
pressoir.
Oui,
oui, c'est bon signe. Mais oui, à la fin, ils sont tout le monde et tout ce petit monde vivant. Et dans le pressoir, je dis non, moi, je vais aller au bout de l'histoire. Je veux trier. Avant que ça aille dans le pressoir. Ils m'ont pris pour un cinglé, évidemment. Il s'avère que maintenant, on trie depuis 2 ans et il n'y a plus du tout de bêtes dans le pressoir.
D'où ce champagne vegan. Il n'y a pas non plus de colle de gomme de poisson
évidemment,
pour filtrer le champagne.
Et donc, c'est fait à base de ça. Donc, c'est végétal du début à la fin.
Et ça s'appelle comment, votre champagne ?
Cuvée vegan by Raphaël Mesraï.
Et on le trouve où, alors ?
Ah bah là, on commence à le trouver dans les grandes surfaces. On commence à le trouver bah, ou sur Internet. C'est le début d'une aventure. Je suis parti dans un... Enfin, je ne sais pas...
Voilà, mais comme toujours, vous partez sur une blague
toujours.
Et il se passe des choses. C'est comme votre nuit de la déprime du 11 février.
C'est parti sur une blague au départ avec oui, une chanson de Nicolas Perrac. Marie l'inexorable.
Ah oui, qui était d'une tristesse
bah
absolue.
Oui, c'est l'histoire d'un couple qui rentre à la maison avec, et puis il pleut, donc le mari va voir au grenier ce qui se passe, donc il se prend une poutre, donc il ne peut plus bouger, l'eau monte inexorablement, il explique que la maison n'en a plus pour longtemps, et au final tout le monde meurt. Donc je dis tiens, c'est assez marrant, après j'appellerai comme ça, je dis tu veux pas chanter, j'ai quitté mon pays, Nicoletta, il est mort le soleil, et tout le monde m'a dit oui, donc je me suis dit bon bah allons-y gaiement.
Alors c'est l'heure des 2 minutes du vin d'Olivier Pouls. Olivier, vous vouliez nous emmener dans le Jura, où a lieu ce week-end, un grand événement que les amateurs connaissent bien, c'est la percée du vin jaune. C'est
oui,
superbe.
Oui,
ça.
C'est à Poligny ce week-end, aujourd'hui et demain. Effectivement, c'est une grande fête vigneronne. On perce le tonneau de vin jaune, ce fameux tonneau qui donne ce vin si particulier. Je vous en ai apporté d'ailleurs, nous allons déguster ensemble.
C'est un événement parce que c'est un vin qui a déjà un petit peu d'âge, hein, ce vin dans le tonneau qu'on perce.
Ben oui, il a passé 6 ans et 3 mois dans le tonneau. C'est ce séjour prolongé dans le tonneau et ce type d'élevage particulier qui lui donne son goût. C'est un vin qu'on appelle de type oxydatif.
Moi,
ça veut dire
ça,
qu'on va le mettre dans des tonneaux pendant ces 6 ans et 3 mois et on ne va pas houiller, c'est-à-dire re-remplir le tonneau au fur et à mesure que du vin va s'évaporer. Et donc va se créer au-dessus du vin ce qu'on appelle un voile de levure. Et c'est ce voile qui donne le goût si particulier au vin jaune.
Alors c'est très, très spécial, hein, ça ne laisse pas indifférent. C'est un vin particulier qui est issu d'ailleurs d'un cépage très très ancien.
C'est le cépage savagnin, on le trouve pratiquement que dans le Jura. Donc c'est vraiment un savoir-faire. Et puis question goût, bah, c'est le vin le plus clivant que je connaisse. Certains l'adorent et d'autres le détestent. Ils n'aiment pas le côté un peu médicamenteux que certains peuvent lui trouver. Moi ce que j'aime, regardez, mettez votre nez là-dedans, sent le rancio, ça sent la noix, ça sent le curry. Ça sent l'épice.
Et ça sent la fin de repas, surtout.
Et ça sent un peu la fin de repas, ça sent le fromage.
Et
on
oui.
fait des associations mets-vins avec le vin jaune qui sont incroyables. Je vous en apporte une.
Très bien.
Un comté, là on va rester local évidemment, un comté et un verre de vin jaune, c'est un des plus beaux accords que je connaisse.
Je vous remercie, je casse mon dry January grâce à vous avec ce vin jaune.
Et puis le vin jaune, vous pouvez l'utiliser en cuisine, il en faut vraiment très peu.
Oui, hein. Pas beaucoup.
Un tout petit, un demi-verre de vin jaune dans votre volaille. Vous parliez de poulet tout à l'heure en début d'émission, un poulet en cocotte. Vous déglacez avec le vin jaune un petit peu de crème, des morilles quand c'est la saison. Et puis dans des sauces, ça rehausse le goût des sauces, c'est très intéressant.
Et ça titre à combien, Olivier? Parce que c'est un peu costaud.
Celui-ci titre à 14 degrés, 5,
oui,
donc
c'est pas cadeau, dans la fourchette. Faut expliquer.
Alors, le problème du vin jaune, ça met tellement de temps à être fait.
Eh oui.
On en produit tellement peu, c'est un tel savoir-faire que, évidemment, ça a un prix au final. Les premières bouteilles se trouvent autour de 25 euros et puis on monte assez facilement 30-40 euros.
Alors, c'est l'heure de mieux vous connaître maintenant, Raphaël Mesrahi, de l'autre côté de la fourchette. Vous êtes prêts ?
Prêt !
Eh bien, c'est parti ! Quel est le goût de votre enfance ?
L'étrangère. C'est un plat comme l'herlalam, mais c'est pareil, c'est végétal. Ouais, avec des pois chiches, tout ça, toujours.
Votre plus beau repas dans le sens inoubliable?
Ah, week-end gastronomique chez Bernard Loiseau, avec mes parents, et c'était absolument divin.
À Saulieu, en
à
Côte
Saulieu,
d'Or.
Reçu comme une star, avec un mec formidable, Bernard Loiseau, et qui nous manque tous.
Bah oui, on salue toute la famille
vraiment,
Loiseau qui nous
ouais.
écoute, et Blanche Loiseau qui est peut-être partie pour reprendre la succession.
C'est vrai.
Votre pire repas, Raphaël Mesrahi?
Alors, dans tous les restaurants qui se permettent de servir des pâtes pré-cuites.
Oui, ça arrive, c'est
donc
vrai.
Donc je me lève et je me barre. Donc quand vous voyez des pâtes blanches, mates, partez.
Oui,
parce que les pâtes doivent être brillantes.
Donc quand elles sont mates,
c'est très mauvais signe.
Absolument. Quel est l'ingrédient que vous n'aimez pas en cuisine?
Moi, personnellement, j'aime pas trop la coriandre et le gingembre, mais j'ai rien contre.
Le plat que vous ne pouvez pas manger?
Tout ce qui a... Enfin, la viande, quoi.
Oui, vous êtes végétarien et vegan, presque. Et vous ne mangez pas d'animaux?
Non,
du tout. Quel plat emmèneriez-vous sur une île déserte?
Des spaghettis, avec un chauffe-eau, évidemment, enfin des trucs, un truc pour réchauffer, je veux dire.
Quel est votre mot préféré en cuisine?
Al dente, forcément.
Eh ben oui. Qui sont les invités de votre dîner idéal, Raphaël Mesrahi?
Alors, Lolo Baffi.
Ah oui?
La base.
Qui aime bien cuisiner aussi. Qui,
c'est la famille.
Et qui aime bien manger.
Ouais, vraiment, définitivement. Et puis tout, mes potes, pas du tout connus d'ailleurs, parce que c'est les plus marrants.
Votre adresse secrète?
Alors, j'aime bien Fellini... rue de la Croix-Nivert, dans
restaurant
le 15e arrondissement. Ouais, restaurant italien. J'ai écrit mes premières interviews, Nicoletta, tout ça, là-bas, il y a plus de 25 ans, et ça n'a pas bougé.
Ça n'a pas bougé. C'est spécial, il faut dire qu'on arrive dans ce restaurant, qui est un très bon restaurant, mais il a quand même son bureau au milieu du restaurant, le monsieur.
Oui, il s'en fout,
hein,
il son ordinateur.
Oui, voilà.
Mais c'est ça qui est très, moi j'aime bien le côté un peu roots, un peu, mais formidable, exceptionnel.
Quel est le dernier plat que vous avez cuisiné, Raphaël?
Qu'est-ce que j'ai cuisiné, moi? Une soupe.
Oui, vous êtes très soupe. Hein.
Oui, j'aime bien les soupes.
À quoi?
Pas poireaux parce que je digère pas en soupe, très bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est l'âge, au bout d'un moment, il y a plein de trucs après qui se passent. Et non, j'aime bien une pomme de terre, autrement carotte et courgette.
Ben oui, c'est plus la saison des courgettes, attention. Hein.
Non, mais toujours de mon jardin, de l'époque.
Ah, voilà.
Oui, c'est ça le problème,
oui.
Parce que j'en ai coupé beaucoup, qui sont des sacs congélation que j'ai gardés au congélateur.
Ah, ça c'est bien, bravo.
Ben oui, évidemment.
Et le mot de la fin, FIM.
Ah, le mot de la fin, manger miam. C'est une chanson de Sim.
Ah oui.
Si vous pouvez retrouver Manger Miam de Sim, alors là pour conclure.
Sim, et la baronne de la tronche en biais.
Avec les carottes poilues.
Voilà, et les carottes, ça a des poils.
Les carottes, ça a des poils.
Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Mesrahi, d'être
merci,
venu.
Merci, Laurent Mariotte.
À la table des bons vivants, c'était un bonheur. Je rappelle que votre Nuit de la Déprime a lieu le 11 février au Casino de Paris. Un spectacle sublime avec de belles chansons, avec de grands musiciens. C'est un très, très beau spectacle. Il reste quelques places.
Ouais.
Merci à la bande des bons vivants, Anne-Laure Femme, Olivier Pouls, Marion Sauveur et Jean-Luc Petit-Renaud. Merci à Lucille Escourou et Louise Delaroa à la rédaction, Julien Blanc à la réalisation, Maryse Jacquet à la programmation. Merci aux crêpes, aux galettes et aux hors-la-lème de Lulu, la maman de Raphaël Mesrahi, qu'on embrasse. Bon week-end, faites le marché, la cuisine, des crêpes et le reste aussi. Bon week-end, Justine.
Bon week-end, Laurent. Rendez-vous samedi prochain pour remettre le couvert à la table des bons vivants, comme d'habitude.